Je veux entendre ce que le Seigneur a à nous dire pour lui obéir. Des fois, on a plutôt envie d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire pour pouvoir décider ensuite si on veut obéir. Là, il s'agit de décider avant. Voilà, pour ce matin, on va continuer dans le livre des Actes des apôtres. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté au début du chapitre 13, donc on va évidemment continuer le chapitre 13. Si tu peux mettre déjà la diapo suivante, s'il te plaît. On nous a montré l'exemple de l'église d'Antioche sur l'Oronte. C'est une église importante, puisque c'est la première église païenne en dehors d'Israël. Et on voit que cette église annonce l'évangile à Antioche, enseigne, on insiste beaucoup sur l'enseignement de ces premiers chrétiens. On voit que l'église prie, et en particulier ses responsables prient. Et puis c'est aussi une église qui est tournée vers, j'allais dire, l'étranger, puisqu'ils vont envoyer des dons à Jérusalem, et ils vont ensuite envoyer des missionnaires à Chypre. Vous voyez, tout le programme qui est demandé à nos églises. Annoncer l'évangile ici, enseigner ici, prier, et puis aussi prendre notre part dans la mission à l'étranger. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va voir le début du premier voyage. On appelle ça souvent le voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Ici, on va voir la première étape. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et on va prendre dans Actes 13, à partir du verset 3, et on va lire jusqu'au verset 16. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à celle-ci, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan, plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits. Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle, et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Au même instant, les yeux d'Élimas s'obscurcirent, il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils quittèrent Pergé et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Voilà, on va s'arrêter ici. Voilà, début du premier voyage, tu peux mettre la diapo suivante s'il te plaît. Début du premier voyage missionnaire de Paul avec Barnabas et Jean-Marc. On voit ici la première étape, ils vont à Chypre, puis à Pergé en Pamphylie, puis à Antioche de Pisidie. Dans la suite du voyage, ils vont rejoindre Iconium et Lystre, deux autres villes de la région montagneuse du Taurus, avant de revenir à Pergé et puis à Antioche. Alors, je vais garder pour la prochaine fois la longue prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Aujourd'hui, on va voir plutôt, quelque part, quelle est leur stratégie. Donc la prochaine fois, on verra ce qu'ils annoncent. Ici, c'est plutôt la manière, comment ils s'annoncent, comment ils s'y prennent. Alors, une petite note, oui, vous voyez un peu les trois grands éléments. Ils sont partis de la ville d'Antioche en Syrie, ou Antioche-sur-l'Oronte. Ils vont à Chypre et ensuite ils vont dans le sud, dans les montagnes du sud de la Turquie d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a deux Antioches aujourd'hui, mais il y a en fait beaucoup d'autres villes qui s'appellent Antioche dans la région. C'est en l'honneur d'un roi qui s'appelait Antiochus. Il y a eu en fait sept Antiochus successifs qui ont dirigé l'empire séleucide. Alors si vous cherchez un nom pour vos futurs enfants, Antiochus. Bon, pour la même raison, il y a beaucoup de villes qui s'appellent Alexandrie à cause d'Alexandre le Grand, ou Césarée à cause de César, ou Tibériade à cause de l'empereur Tibère. Chez nous, on a aussi des rues du général de Gaulle, etc. Bon, comme je l'ai dit ce matin, on va se concentrer sur les stratégies d'évangélisation de l'apôtre Paul. Le texte biblique qu'on a lu, vous l'avez remarqué, ne donne pas tous les détails. Mais je pense qu'il nous donne un certain nombre de détails importants, au sens où c'est sans doute les choses les plus importantes à retenir. Alors oui, voilà, vous avez tous les points que je vais développer progressivement dans ma prédication. La première chose, c'est qu'il commence à annoncer l'évangile aux Juifs. C'est ce qu'ils vont continuer à faire ensuite, dans la suite de leur voyage. Ils prêchent d'abord dans les synagogues, et en particulier dans la synagogue des villes. Salamine est l'ancienne capitale, la nouvelle capitale, c'est Paphos. Donc ils vont commencer par les villes, on va dire par les synagogues les plus grandes, et ensuite de là, ils vont rayonner dans la région autour. Ici, ce n'est pas une très grande région, donc ça représente toute l'île. On sait par d'autres passages, notamment la fin du chapitre 13, qu'en dehors de la présence dans la synagogue elle-même, ils vont passer beaucoup de temps avec des discussions privées. À la sortie de la synagogue, les gens viennent, en quelque sorte, prendre rendez-vous avec eux pour parler pendant la semaine. On a souvent l'impression que ce qu'on appelle les prosélytes dans certaines versions de la Bible, ou les craignants de Dieu dans d'autres, ça veut dire que ce sont des non-israélites, mais qui s'intéressent à la foi juive, on a l'impression que c'est eux qui sont le plus réceptifs, davantage que les Israélites eux-mêmes. Bon. Vous remarquerez que dans ce passage-ci, on ne sait pas combien de temps Paul et Barnabas sont restés à Chypre. On ne sait même pas s'ils ont habité à Salamine et rayonné depuis là, ou s'ils ont habité dans chacune des villes de l'île successivement, on ne sait même pas tout ça. On ne sait pas combien de Juifs se sont convertis, ni même combien de synagogues il y a sur l'île de Chypre. Vous voyez que Wikipédia ne fonctionne pas bien à l'époque. Mais vous voyez surtout que nous avons, nous, l'habitude de nous intéresser beaucoup à ce genre d'informations. On aime bien les chiffres. Voilà, quels ont été les résultats? Ici, vous voyez qu'on se concentre sur un seul élément, une chose qui compte, annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile. C'est ça qu'on nous dit. Ils ont annoncé l'Évangile. C'est finalement ça qui compte. Une chose est claire, dans leur approche, Barnabas et Paul commencent à annoncer l'Évangile aux Juifs. Alors il y a sans doute trois raisons à cela. D'abord, tout simplement parce que c'est l'exemple que Jésus a donné et qu'il a ordonné à ses disciples. Commencer par le peuple juif. Aujourd'hui, la situation a bien changé, mais il reste très important d'évangéliser, j'allais dire, aussi les Juifs. La deuxième raison, c'est sans doute parce que les Juifs attendent le Messie. Ils sont donc normalement plus réceptifs au message de la mort et de la résurrection de Jésus. On verra dans la suite qu'il faut mettre quelques nuances à ça, mais en principe, ils attendent le Messie, ils sont en tout cas réceptifs au message de l'Évangile. Là aussi, les choses ont bien changé aujourd'hui. Je pense que la plupart des Juifs n'attendent pas vraiment le Messie. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Troisièmement, sans doute, s'ils commencent par annoncer l'Évangile aux Juifs, c'est parce que pour quelque part, c'est un peu plus simple de leur annoncer l'Évangile parce qu'on peut s'appuyer sur l'Ancien Testament. On peut s'appuyer sur l'Ancien Testament pour démontrer la divinité de Jésus. Et de plus, comme les Juifs connaissent déjà bien la Bible, il est sans doute plus simple, plus facile de former les futurs responsables pour l'Église. Et on se rend compte que la première génération de responsables dans presque toutes ces églises de Turquie, ce sont d'anciens Juifs. pas parce qu'on préférait les Juifs, mais parce qu'ils connaissent la Bible et c'est fondamental pour diriger le peuple de Dieu. Comme l'objectif de l'équipe d'évangélisation, ici Paul et Barnabas, est de rester relativement peu de temps et pour pouvoir continuer plus loin, il est évidemment primordial qu'ils puissent former des personnes qui peuvent continuer à enseigner la Bible derrière eux. Pour nous, ça signifie sans doute qu'il nous faut être particulièrement attentifs à annoncer l'Évangile à des gens qui connaissent au minimum un peu Dieu et, si possible, la Bible. Ouais. Plus difficile à trouver en France, manifestement, que dans l'île de Chypre à l'époque de Paul. C'est par exemple les musulmans, qui connaissent beaucoup de choses sur la Bible et sur Jésus. Alors, des choses qui sont justes et des choses qui sont peut-être à corriger, mais c'est déjà un point de départ. C'est aussi pour ça, par exemple, pour laquelle, il y a une année, on a fait la grande expo de la parole à la peinture. On s'appuie sur la connaissance un peu culturelle de la Bible pour aller plus loin. Ça nous donne un point de départ important pour commencer. Donc, d'abord, priorité aux Juifs, n'empêche, on ne néglige pas tous les autres aussi. La stratégie de Paul et Barnabas semble assez simple à résumer. En gros, ils saisissent les occasions offertes. Ouais. Ce n'est pas très à la mode. Hein. On parle beaucoup qu'il faut être proactif, etc. Ce n'est pas tout à fait ça qu'ils font. Ils saisissent les occasions offertes. Ils commencent à annoncer l'Évangile dans les synagogues, et ensuite à ceux qui souhaitent en savoir plus, et ensuite aux païens que Dieu place sur leur route. Ici, par exemple, le proconsul. Le proconsul, c'est la plus haute autorité politique de l'île de Chypre à cette époque. On imagine que sans doute Paul prêchait depuis un certain nombre, je ne sais pas, de jours, de mois, dans l'île de Chypre avant que le proconsul l'invite. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi le proconsul l'a invité. Est-ce qu'il cherche vraiment Dieu ou il cherche juste un beau discours pour avoir des distractions parce que, voilà, il n'y a pas la télé à l'époque. Il est d'ailleurs fort probable qu'il y ait un mélange de différentes choses. À la fois, il cherche Dieu, puis à la fois, il a envie de se divertir un peu en organisant une sorte de dispute entre Paul et Elimas. Ouais. Mais voyez, pour Paul et Barnabas, c'est une opportunité à saisir. On nous précise que c'est pendant cette période-là que Paul a décidé de privilégier son nom romain. Plutôt que choisir plutôt son nom hébreu, Saul, Shaul, il va privilégier son nom romain, Paulus. Paul privilégie les Juifs, mais voyez qu'il se soucie de faciliter la vie aux autres aussi. Shaul, ce n'est pas facile à prononcer pour un grec. Ouais. Manifestement, Paul souhaite se présenter non pas comme un Juif qui vient pour des Juifs, mais comme un porte-parole de Jésus pour tous. Quel effort faisons-nous pour faciliter l'accueil de l'Évangile à ceux qui nous entourent? Est-ce que vous prenez du temps pour écouter vos amis non-chrétiens, pas encore chrétiens, je ne sais pas comment il faut dire ça, pour percevoir ce qui les rebute inutilement? Est-ce qu'on serait prêt, comme Paul, à changer de nom ou notre style vestimentaire, ou notre manière de parler, pour faciliter l'accueil de l'Évangile. Vous noterez dans cette histoire qu'on ne sait pas exactement à quoi le proconsul a cru. Presque à la fin de l'histoire, on dit qu'il a cru. Il a cru en voyant Elimas devenir aveugle. Mais qu'est-ce qu'il a cru? On n'est pas sûr. Certains commentateurs disent « comme on ne mentionne pas de baptême », ça veut dire qu'il n'est pas vraiment devenu chrétien. Il a seulement commencé à croire Paul plutôt qu'Elimas. Ouais. D'autres vont dire « Ah non, il pense qu'il a compris vraiment le message de la foi et qu'il est devenu chrétien. » Ici, que la Bible ne nous donne pas tous les détails. Maintenant, pour l'anecdote, ce n'est pas dans la Bible, mais je trouve que c'est une anecdote intéressante. L'archéologue Ramsay, c'est un grand archéologue du 19e siècle qui a beaucoup étudié la Turquie. Il a trouvé des traces d'un chrétien nommé Lucius, fils de Sergius Paulus, dans la région d'Antioche de Pisidie. Donc, il en a déduit que le proconsul et ensuite toute sa famille sont devenus chrétiens. Et que la conversion du fils du proconsul Lucius, c'est ce qui aurait mené Paul à ensuite aller à Antioche de Pisidie. Intéressant, hein, comme... Bon. Maintenant, la Bible ne nous donne pas tous ces détails-là. Bon, si c'est le cas, on voit que ça c'est encore un exemple où Paul saisit une opportunité. Paul et Barnabas mettent en place une stratégie pour annoncer l'Évangile, en premier lieu à ceux qui ont déjà une connaissance de Dieu et un certain respect de Dieu, et ensuite, ils saisissent toutes les occasions offertes. Vous connaissez sans doute ce verset d'Éphésiens 2:10 que je vous encourage à mettre au-dessus de votre miroir de salle de bain. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Alors, je n'ai pas marqué. Je pensais l'avoir marqué dans mes notes. Je ne l'ai pas noté, donc je vais chercher dans ma Bible. Éphésiens 2:10. À moins que quelqu'un le connaisse par cœur. Je le connais presque par cœur, mais je me trompe toujours, donc c'est mieux de vérifier. Éphésiens 2:10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. J'aime bien cette idée que chaque jour que Dieu fait, il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées pour le Seigneur afin que nous les pratiquions. Oui ? Ça veut dire que souvent, nous, on a des œuvres dans notre tête qu'on aimerait pratiquer. Et il faut se rappeler, le Seigneur a aussi parlé, préparé des bonnes œuvres pour qu'on les pratique. Comment Paul et Barnabas ont-ils choisi leur lieu d'évangélisation ? Essentiellement pour des questions d'opportunité ou de bon sens, on va dire ça comme ça. De bon sens sanctifié par le Saint-Esprit, mais quelque part, de bon sens. Pourquoi Chypre ? Sans doute tout simplement parce que Barnabas est chypriote. Il est donc plus facile pour lui d'annoncer l'Évangile à cet endroit-là. Et sans doute, il y a aussi des raisons très pratiques. À Chypre, il a sans doute un vague cousin qui peut le loger, par exemple. Et ça fait partie aussi des opportunités. Chypre est aussi une région où il y a une forte minorité juive assez récente. Ouais, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Parce que très peu de temps avant l'épisode qui nous est raconté ici, le roi Hérode Antipas a acheté des mines de sel sur cette île et donc il a envoyé des ouvriers d'Israël à Chypre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs. Et c'est aussi intéressant parce que ce sont des juifs qui sont arrivés relativement récemment. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est parfois plus facile d'entrer en contact avec des gens qui sont arrivés récemment qu'avec des gens qui sont déjà bien installés dans leur routine. Les nouveaux arrivants sont souvent en recherche de nouveaux amis ou de nouvelles activités. Ouais. Si vous avez des nouveaux voisins, ne ratez pas l'occasion de faire connaissance. Dans quelques temps, leur agenda sera plein et ça sera beaucoup plus difficile de les voir. Ouais. Vous savez que dans notre projet d'église, nous souhaitons développer une approche spécifique envers les jeunes familles. On n'a pas encore beaucoup travaillé dans ce domaine d'ailleurs, hein. Pourquoi ? Parce que c'est une population en forte croissance à Chartres. Beaucoup de familles déménagent sur Chartres, même si souvent ils travaillent sur Paris. Que faisons-nous pour les atteindre ? Comment profiter de l'opportunité qui nous est proposée ? Le voyons-nous comme une opportunité ? J'entends très souvent dans notre église des gens qui disent « Oh ouais, ces gens qui bossent à Paris, c'est compliqué, c'est difficile de se voir en semaine. Enfin, » Bon, ils ne sont pas là à la réunion de prière le mercredi. Bon. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un obstacle pour nous ? Parce que ça trouble nos habitudes. Après Chypre, Paul et Barnabas vont vers la côte la plus proche, une ville qui s'appelle Pergé. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait là. On nous dit simplement que Marc est parti ou Jean-Marc les a quittés. Et on sait par ailleurs que Paul est tombé malade. Alors, d'après un autre livre qui n'est pas un livre biblique, c'est le livre des Actes de Barnabas, il serait resté 2 mois à Pergé. Mais ça, on n'en est pas sûr. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que Pergé était une ville très marécageuse et infestée par la malaria. Donc beaucoup ont imaginé que Paul est tombé malade à cause de la malaria et que c'est pour cette raison qu'ils sont partis dans les montagnes. Ce qu'on sait, nous, par la Bible, donc Galates 4, 13 à 14, par exemple, je ne vais pas vous le lire, mais on va le résumer un peu. Paul écrit aux Galates qu'il est venu annoncer l'évangile auprès des Galates à cause de sa maladie. On ne sait pas trop quelle maladie c'était, mais manifestement, c'était mieux pour lui d'être dans les montagnes qu'au bord de la mer. Alors que par ailleurs, ça semblait plus logique qu'il annonce l'évangile dans un port comme Pergé qu'au milieu des montagnes. Mais voilà. La question qu'on pose ici, c'est, à la place de Paul, qu'est-ce que vous auriez pensé? Est-ce que pour vous, la maladie, c'est un obstacle ou c'est une opportunité? Est-ce que vous l'auriez vu comme une attaque de Satan ou comme une indication de la part de Dieu? Comme un appel à se replier sur Jérusalem comme Jean-Marc ou comme un appel à poursuivre leur travail vers Antioche de Pisidie? Moi, je vous encourage vivement à faire la liste de tout ce que vous voyez comme limitation et de les apporter à Dieu en vous demandant est-ce que c'est vraiment des limites ou est-ce que c'est des opportunités données par Dieu. Ouais. Très souvent dans mes visites, les gens me disent « Ah, je ne peux pas faire ça, 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 parce que voilà toutes mes limites. » Est-ce que ce sont des limites ou est-ce que ce sont des opportunités? Pour prendre un exemple, pas de la ville de Chartres, c'est une ville. C'est un ami qui travaillait auprès des étudiants. Et en jouant au foot avec les étudiants, il s'est déchiré les ligaments croisés. Donc évidemment, pendant pas mal de semaines, il n'a pas pu se rendre à la fac. Mais pendant à peu près ces 6 semaines où il n'a pas pu se rendre à la fac, son kiné et tout le cabinet se sont convertis. Ouais. Quelles sont les choses que je vois comme des limitations et qui parfois sont des excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur me demande de faire? Paul et Barnabas partent ensuite pour Antioche. Comme je l'ai dit, pour Ramsès, il y va parce qu'il a une lettre de recommandation pour rendre visite à Lucius. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, en tout cas, ce n'est certainement pas la raison unique. Antioche est aussi une ville assez stratégique pour l'évangélisation, pour plusieurs raisons. La principale, c'est parce que c'est une ville de forte garnison romaine. Ouais. Garnison romaine dit deux choses. Une, c'est que c'est beaucoup plus facile de parler grec. Les gens du coin ne parlent pas forcément grec. Le grec, c'est un peu l'anglais de l'époque, hein, si vous voulez. Et puis d'autre part, la présence militaire romaine fait qu'on construit plein de routes dans tous les sens et ça facilite l'annonce de l'évangile. Et accessoirement, la fuite, quand il y a des persécutions, il faut aussi y compter malheureusement. Il est important d'annoncer l'évangile, quelque part en priorité, là où on se dit « ça va pouvoir facilement ensuite faire des petits », si j'ose dire ça comme ça. Ça va pouvoir se répandre. Certains collègues se concentrent sur les bars ou sur les marchés, parce qu'ils disent « c'est là où il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup parler ». Donc, quand ils ont reçu l'évangile, ça se répand plus vite. Ouais. C'est pour la même raison qu'on attache beaucoup d'importance au site Internet, hein, par exemple. Merci Bruno. En passant, c'est encore pour l'anecdote, la ville d'Antioche s'est développée à cause de la lutte contre les tribus des montagnes qui n'ont jamais vraiment été soumises à Rome et qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, pour ceux qui connaissent leur classique. Et en passant, si cette région s'appelle la Galatie, c'est parce qu'il y a beaucoup de Gaulois dans le coin. Ah oui, 2 siècles avant, ils ont envahi la Turquie, les Gaulois. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de la Galatie. Bon, il faut aussi préciser qu'une bonne partie des routes de Galatie sont des routes difficiles. Et on estime que dans 1 Corinthiens 11, 26, où Paul parle des dangers des fleuves et des dangers des brigands, il est en train de parler de cet épisode-là. Parce que les routes de Galatie sont des routes de montagne qui traversent des torrents dangereux, des gorges assez délicates, mais aussi des longs chemins de crête où on est attaqué par les pillards. Vous vous rappelez ces tribus qui s'en résistent toujours, hein ? Voilà. Comment Paul et Barnabas ont choisi leur lieu d'action, en partie par le bon sens, en cherchant les opportunités raisonnables. Évidemment, le bon sens, ça ne suffit pas. Il est important de demander une confirmation de la part du Saint-Esprit. Mais de l'autre côté, il serait très peu spirituel de mettre de côté toutes les indications que donne notre intelligence sanctifiée par Dieu sous prétexte d'être hyper spirituel. Quand Dieu nous parle par notre intelligence, il vaut mieux aussi l'écouter. Oui, une petite note quand même avant de... Voilà. J'ai dit que la priorité était d'annoncer l'Évangile aux Juifs. J'aimerais aussi préciser que la priorité, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est peut-être basique, mais c'est quand même ça qu'il faut rappeler. C'est d'annoncer l'Évangile. Si la nécessité le demande, ou si, voilà, ils vont aussi chasser des esprits mauvais ou prier pour des malades. Mais la priorité est l'annonce de l'Évangile. Bon, avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais parler de deux personnages, au moins rapidement, Elimas et Jean-Marc, deux personnages dont on parle dans cet épisode-là. Elimas, Bar-Jésus, ça veut dire fils de Jésus, on ne sait pas quel est vraiment son nom. Elimas, c'est un mot araméen qui veut dire le sage ou le mage. Vous voyez ? Elimas se fait appeler le sage et il se fait passer pour un prophète. Et puis Paul dit, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un charlatan. On sait qu'Elimas s'est opposé à l'Évangile. Il ne veut pas que le consul devienne chrétien. En fait, on ne sait pas trop pourquoi il ne veut pas que le consul devienne chrétien. Est-ce que c'est parce qu'il est magicien et donc qu'il n'aime pas la foi chrétienne ? Est-ce que c'est parce qu'il est juif et donc qu'il n'aime pas non plus les chrétiens ? Ou est-ce qu'il a peur de perdre son influence sur le consul ? Il a une espèce de rôle de conseiller. Ouais. Probablement, c'est un mélange des trois. Vous savez ? Il y a rarement une seule raison pour laquelle quelqu'un s'oppose à l'Évangile. Il y a souvent une espèce de mélange de choses. Et c'est parfois pas très facile, on ne nous avoue pas toujours tout. En tout cas, Elimas met une énergie considérable à combattre Paul, puisque Paul va le décrire comme méchant et plein de ruses. Et il va arriver à Elimas, presque ce qui arrive à l'apôtre Paul, presque une quinzaine d'années avant. Elimas, qui prétend connaître des connaissances mystiques, va devenir aveugle. Et il va devoir comprendre qu'il est aveugle à la vérité, qu'il veut être aveugle à la vérité. En tout cas, tout l'entourage va le constater aussi. Est-ce que Elimas va tirer des bonnes conclusions comme l'a fait l'apôtre Paul ? Ça, on ne sait pas. Ou est-ce qu'il va préférer rester dans ses ténèbres spirituelles ? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Un autre personnage important de cette histoire, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, on commence à en parler en acte 12. On sait qu'il vient de Jérusalem, que sa maman accueille une église de maison chez elle et qu'il est de parenté avec Barnabas. Paul et Barnabas ont choisi de le prendre avec eux. La Bible ne dit pas exactement quoi. Le terme utilisé, c'est un terme pour dire qu'il est au service. Est-ce qu'il a des tâches très concrètes, genre porter les valises, ou est-ce qu'il est là pour être un peu leur pasteur adjoint ? On n'est pas sûr, en fait. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans la suite, Jean-Marc aura un ministère très important avec Barnabas, ils vont retourner à Chypre dans la suite, mais aussi auprès de l'apôtre Pierre. Il sera le secrétaire de l'apôtre Pierre pendant de nombreuses années. On lui doit notamment l'évangile de Marc. C'est quand même quelqu'un que vous connaissez bien. Bon. La question ici est pourquoi Marc les abandonne pour retourner à Jérusalem ? Et pourquoi il retourne à Jérusalem plutôt qu'à Antioche-sur-l'Oronte ? Qui est sa base d'envoi. Vous voyez ? Il rentre chez sa maman, si vous voulez. Hein ? Alors, on a pensé à trois raisons, même si là aussi, la Bible ne nous dit pas pourquoi il est parti. La première auquel on a pensé, c'est le découragement. La deuxième auquel on a pensé, peut-être qu'il refuse d'évangéliser les païens. Au début, il est à l'aise quand on annonce l'évangile aux Juifs seulement. Mais quand il se rend compte que c'est aux Juifs en premier, mais aux autres aussi, peut-être qu'il commence à être un peu mal à l'aise. Chypre a une forte minorité israélienne, mais là, ils vont partir dans les montagnes du Taurus, où il y a très peu de juifs. La troisième raison qui a été évoquée, c'est qu'il est peut-être en désaccord avec Paul. Dans le texte, on le voit un petit peu en filigrane. À leur arrivée à l'île de Chypre, c'est Barnabas qui dirige l'équipe. À leur sortie, à leur départ de l'île de Chypre, c'est Paul qui dirige l'équipe. On parle de Paul et ses compagnons. Comme au début, c'est plutôt Barnabas et ses compagnons. Il est possible que Jean-Marc n'ait pas trop apprécié ce changement de leadership. En tout cas, on sait que son départ a été très mal vécu par l'apôtre Paul. C'est clair que quand quelqu'un nous abandonne quand on est malade, c'est pas facile à vivre. Ouais. Bon, il y aura toutes sortes de péripéties jusqu'à ce qu'ils se réconcilient et continuent à collaborer ensemble. On voit dans Colossiens 4 ou dans 2 Timothée 4 que Paul en parle comme un collaborateur précieux. Voilà, conclusion, enfin diront certains. Je l'ai dit plusieurs fois, je crois, mais je pense que c'est important de le rappeler, nous sommes tous appelés par Dieu. Voilà. Nous sommes tous appelés par Dieu. La question est simplement pour quelle mission et à quel endroit. Mais c'est certain, nous sommes tous appelés par Dieu. Et vous avez vu, j'ai essayé de faire un résumé, voilà. Trois missions centrales qui nous sont proposées, évangéliser, prier et enseigner. On a tous une part à jouer là-dedans, différente sans doute. Laquelle est la mienne? Laquelle est la celle de chacun d'entre nous? On doit commencer là où il y a des opportunités, c'est ce que nous enseigne ce passage. Et puis si le Saint-Esprit nous donne d'autres indications en cours de route, ben on va changer en cours de route. Mais on va commencer par les opportunités qui nous sont données, en les voyant aussi, ou en voyant aussi nos réflexions et nos circonstances comme étant parfois des indications du Saint-Esprit pour nous dire là où nous devons servir. Je vous invite à prier pour terminer ce temps.